Croyez-moi, vous en êtes un.
J'en suis un?
Oh oui, et un beau.
Mais vous êtes fou!
Vous écoutez les entonnoirs. Vous écoutez
les entonnoirs.
Si vous êtes normal, vous n'avez rien à foutre ici. C'est vite évident.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
T'as fou, c'est pas bien normal. Il n'est pas comme nous.
Les anormaux, quoi, les anormaux.
Les entonnoirs.
Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Normal.
J'ai un coup de gueule à passer.
Mais faites quoi, on fait notre émission de radio, ouais. Et quoi.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Non, mais c'était un con, là.
Il faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments.
En se posant des questions.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Émission numéro 264. On prend de l'âge quand même. Mais aujourd'hui, vous saviez sans doute que les entonnoirs de Roubaix étaient de plus en plus en symbiose, en osmose avec Valenciennes. Et comme c'est le cas, on est à Valenciennes aujourd'hui, on s'est transféré. Il y a une téléportation. Voilà, donc on est à Valenciennes. Et écoutez, comme je suis roubaisien et que Sophie est valencienne, je laisse la parole à Valenciennes.
Merci Bruno. Oui, nous sommes à Valenciennes au Phénix, scène nationale, qui propose du théâtre, de la danse, du jazz, et tout un tas de spectacles super intéressants. Et le Phénix nous accueille aujourd'hui pour faire une émission un peu éclectique. Il y aura de la musique, des poèmes, des interviews. Tout ça va très bien se passer, même si au début il y a un petit peu de stress, c'est normal.
Vaut mieux du stress que du strass, voilà.
Attends, on va peut-être devenir des stars. Hein. Et pour commencer, on va parler avec Laure de Bébé, qui chante Malo Malo.
Oui, comme l'a dit Sophie, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voudrais vous parler d'une chanteuse espagnole, Bébé, qui chante la chanson Malo et qui parle des violences conjugales. Donc, je voulais vous la présenter, voilà.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la y el sol vuelva a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a
voy a volverme como el fuego. Voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego. Voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. Malo eres porque quieres. Malo, malo, malo eres. No me chilles que me duele. Eres débil y eres malo. Y no te pienses mejor que yo ni que
ben voilà, c'était l'information. Malo, ça veut dire méchant ou mauvais. Donc, oui, elle parle des hommes violents, quoi.
Je crois que c'est d'actualité parler de la parité homme-femme. Voilà. Et donc, c'est un, comme c'est un sujet d'actualité brûlante, les propos sont enflammés et on est au Phoenix en plus. Vous voyez, c'est, tout va très bien, quoi. Voilà. Donc, bon, j'arrête de, il fait chaud ici. Bon, et je crois que maintenant, je vais réciter deux poèmes. Et je vais commencer par un poème qui m'est parvenu tout droit des étoiles. Bah oui, le titre, c'est Petit ange cosmique. Donc, bon, j'ai rien contre ça, on va où on veut, quoi. Donc, bah, je vais vous le lire. Il est de mademoiselle Aline Cabadet, qui est de Valenciennes, je crois.
Voilà. Ouais.
Donc, Aline, en pensant à toi, voilà, Petit ange cosmique. Nœud de cheveux vieux rouge, sur son visage voluptueux. Chaussures ou scandalettes, la levée à l'aurore. Sa vie n'est qu'une table qui supporte tout. La pâture sûre reflète sa fatalité. Mais les éclairs qu'elle produit pour ne pas voir le désastre, c'est ça le bonheur. Cette découverte nous fait oublier qu'on est des infiniment rien. C'est joli, hein, c'est bien. C'est cosmique, quoi. C'est cosmique, ne pas confondre cosmique et cosmétique. Voilà. Là, c'est vraiment cosmique, mais si c'est cosmétique, il n'y a pas de problème non plus, quoi. Et le deuxième poème, c'est le mien. C'est l'un de mes derniers. Il s'appelle ceci. Je l'ai écrit parce que je me trouvais trop agressif. Donc, par rapport à ça, j'ai voulu y réagir, quoi. Et le premier qui me dit que je parle avec agressivité, qui me le signale quand même, quoi. Ceci est un écrit, écrit à l'instant précis, où vivant plus mort que vivant, je compte les morts de tous mes récits. Précisément à cet instant précis, dans lequel, triste et mortifère, je fais soudain la guerre en tuant n'importe qui. Ceci est l'alarme de solitude d'un homme pris dans la spirale de mauvaises habitudes, où son venin le force, sans destin, à déconstruire une espérance, sans vaillance et sans élégance. Ceci est la guerre, un instant précis où je veux mourir, car une femme à l'attente légendaire m'a signifié que j'avais l'insignifiance d'un être dépossédé, les yeux méchants et tourmentés. Bah écoutez, à mon avis, maintenant, c'est le phénix est redescendu sur Terre, donc voilà, nous pouvons accueillir, je crois qu'on peut accueillir Madame Gorka, qui est... Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, je m'appelle Patricia Gorka, je suis secrétaire générale du Phoenix. C'est un poste où on s'occupe de communication, de relations publiques, et puis voilà, d'accueillir ce genre d'émission aussi. Voilà, donc le Phoenix, c'est un théâtre, comme vous l'avez vu, c'est un lieu de culture, c'est une scène nationale. C'est un peu les héritières des maisons de la culture telles que Malraux les avait imaginées. On y fait du théâtre, on y fait de la musique, on y fait de la danse, on y fait aussi des spectacles qui sont hors genre, on y fait du cirque, on y fait des spectacles pour les enfants qui s'appellent chez nous des loustics. Voilà. On a environ 70 rendez-vous dans l'année. Et une centaine de représentations. On y fait aussi des ateliers nomades. Les ateliers nomades sont en fait des spectacles ou du public vient avec les artistes et travaille avec l'artiste un peu avant le spectacle. Voilà, donc on emmène aussi les spectateurs dans des aventures comme ça. Ici, on est dans la salle des pédagogies. C'est une salle où on reçoit des élèves d'option théâtre. Donc ici, chaque semaine, il y a 120 adolescents qui viennent travailler faire du théâtre. Je sais pas si vous le sentez un petit peu. Voilà.
Une question. Est-ce qu'on a choisi délibérément le mot phénix pour ou c'est simplement un hasard ou...
Non, c'est pas un hasard. En fait, il y avait un théâtre à Valenciennes qui a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se trouvait sur ce qu'il trouvait place d'armes. Et quand le phénix, qui n'avait pas encore de nom, quand il est né, il y a eu une réflexion autour de ce nom. Et voilà, ça a semblé naturel à ce moment de l'appeler comme ça. Il renaissait de ses cendres. Et d'ailleurs, ça a été comme ça, la communication à l'époque.
C'est très beau, c'est une très belle expression. Bah, oui, parce que le théâtre a été détruit, il se reconstruit, donc il renaît de ses cendres.
Il a attendu 40 ans, mais il est revenu.
On fait ce qu'on peut.
Oui.
Dominique, tu veux Sophie, tu voulais dire, ajouter quelque chose?
Oui, évidemment. Je voulais peut-être que vous pouvez parler un peu plus de la programmation qui est un peu plus loufoque.
Que je vous propose des spectacles pour l'année prochaine.
Oui, faites-moi envie.
Bon, alors, je vais regarder, j'ai ma petite plaquette. Alors, on va faire du cirque avec un super artiste de cirque qui s'appelle Jamie Hodgkins, qui va faire un spectacle qui s'appelle Circus Incognitus. Ça, ce sera en décembre. Alors, il y a beaucoup de spectacles. Hein. Si je vous parle de tout, je vais passer une heure. Hein. Donc, je vais faire un peu le tour. Et puis, on va commencer la saison avec François Morel et Instant Critique. Ce sera un spectacle qui va parler du cinéma et... voilà, juste à la rentrée, on aura China Moses aussi. China Moses, c'est une chanteuse de jazz qui est sur le Grand Journal tous les soirs, qui est aussi la fille de Teddy Bridgewater et qui chante magnifiquement bien. Elle fera un hommage à Nina Simone, etc. Enfin, grande chanteuse. C'est pour vous montrer un petit peu qu'on fait un peu tous les gens. Hein. De la danse avec Robin Orlin, qui va faire un spectacle sur la beauté noire, et un spectacle très enthousiasmant. Ça s'appelle Beauty. La grande et fabuleuse histoire du commerce de Joël Pommera, qui est un très très grand metteur en scène de théâtre. Donc je vous invite aussi à venir découvrir ce spectacle. Alors l'Orchestre National de Lille, j'essaie de balayer. Jean-Claude Dreyfus avec Dommage sans interdit, qui viendra faire un hommage à Raymond Devos aussi. Christophe Alévèque, qui viendra un petit peu mettre du poil à gratter... dans la saison, il y a Brahim Bouchelaghem, un spectacle de hip-hop avec Brahim Bouchelaghem, qui est quelqu'un qui va s'installer sur le territoire, sur Valenciennes, bientôt, dans le quartier Chasse Royale. Donc, je vous invite aussi à venir le découvrir. Alors après, j'ai qui encore? J'ai Jacques Gamblin. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques Gamblin.
On adore tous.
Voilà. Donc, il va venir pendant une semaine. Il va venir lire un texte de Romain Gary. Et ensuite, il va venir avec Laurent de Wild faire une espèce de spectacle piano-slam. Voilà. À mon avis, ce sera un beau rendez-vous. Donc, comme elle est là une semaine, profitez-en, il va manger ici, il va se promener en ville, tout ça. Donc, l'occasion de le rencontrer, ou de l'inviter peut-être. Pourquoi pas? Peut-être j'ai une idée là. Alors après, on a Carmen. Carmen, un ballet d'Antonio Gades qui viendra ici. Plus de 40 danseurs flamenco. Donc là, c'est pareil, ça va être très très chaud. Ce sera en février, ce sera au Phénix. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire aussi, Vouvaille, un spectacle de cirque, Johan Bourgeois avec Jean-Christophe Frisch autour des quatre saisons de Vivaldi. On va dire que quand les quatre saisons vont rencontrer le cirque, qu'est-ce que ça va donner, on verra bien. Pour les enfants, Podane, vous connaissez tous Podane, donc voilà, Podane revient. Qui a peur du loup, et puis Tranché par la compagnie Zapoy, donc je fais la transition en fait, qui viendra aussi, qui reviendra la saison prochaine. Voilà, puis il y en a plein d'autres, vraiment, allez voir sur le site www.lephénix.fr, il y a une plaquette, enfin voilà, on est là, il y a des parcours possibles, n'hésitez pas à nous appeler.
D'accord. Je pense que maintenant, Bruno, on va passer à une interview.
Oui, avant, peut-être que d'autres personnes autour de la table ont une petite question qu'on va poser, non, regarde, non, ça va aller. Ok, ben merci pour nous pour l'accueil, pas de problème, vraiment on est bien, je me sens bien personnellement et d'autres, les autres aussi je crois.
Ben merci. Voilà. Nous on est très 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 heureux de vous accueillir.
Et à Roubaix je vais faire la publicité pour le Félix Valenciennes, c'est évident quoi.
Super.
Donc aujourd'hui en plus on reçoit, donc c'est international, c'est européen, on reçoit une personne qui nous vient, enfin qui est originaire de Bulgarie, Stanka je crois.
Oui c'est ça, c'est très bien prononcé.
J'ai toujours mangé du yaourt, c'est peut-être pour ça aussi.
Oui, c'est sûr que le yaourt fait l'accent.
Oui, exactement. Stanka, vous allez nous parler de la compagnie Zapoy. Mais avant, présentez-vous, si vous avez envie.
Avec plaisir. Donc voilà, je m'appelle Stanka Pavlova. Je suis, comme vous l'avez entendu, d'origine bulgare. Ça fait une vingtaine d'années, plus de 20 ans que je suis en France. Et je suis venue ici pour faire une école qui est unique dans ce pays, qui s'appelle École supérieure nationale des arts de la marionnette et qui est située dans les Ardennes, à Charleville-Mézières. Et donc c'est comme ça que j'ai atterri donc en France pour suivre cette formation et compléter une formation déjà que j'avais eue en Bulgarie. Voilà, donc un parcours à l'école de marionnettes. Et puis j'ai émergé aussi au sein de plusieurs compagnies jusqu'à 2001 où nous avons eu envie avec mon mari, compagnon, voilà, tout cela à la fois, de créer la compagnie Zapoy. Donc elle est née en 2001. Elle est née ici dans le Nord. Et la particularité de la compagnie, bien entendu, on travaille autour des arts de la marionnette, mais on questionne des formes traditionnelles avec des formes plutôt contemporaines et en essayant de mélanger des langages artistiques divers et ouvrir notre art aussi à d'autres corps de métier, d'autres aux arts plastiques par exemple, à l'image vidéo, image numérique également, on confronte la marionnette avec les diverses arts possibles, voilà.
Et je voulais savoir quel est votre parcours artistique, par où êtes-vous passé en France, dans les spectacles que vous avez fait. Vous avez fait que dans le Nord ou
Non, voilà. Donc, j'ai avant de venir en France, donc j'ai fait l'Académie théâtrale de Sofia en Bulgarie, donc avec un parcours de marionnette, en section marionnette. Et quand l'occasion, parce que c'est une très jeune école, l'école de Charleville, ça fait 20 ans à peu près. Donc, il a été créé en 87. Et quand j'ai su en fait que l'école a été créée, j'ai eu envie de compléter ma formation plutôt traditionnelle, je dirais. Et donc, j'ai suivi de 90 à 93 à Charleville. Par la suite, j'ai travaillé avec plusieurs compagnies, donc à CDM à Charleville-Mézières. J'ai travaillé pour l'Institut de la marionnette, donc une compagnie qui regroupait des anciens élèves et qui travaillait un peu à la professionnalisation aussi. Voilà ce qui nous a permis d'échanger avec des metteurs en scène. Et après, je suis quelqu'un de très curieux, donc ça ne me suffisait pas. Si vous voulez juste le côté artistique, je souhaitais vraiment compléter par une ouverture aussi au monde universitaire. J'ai vécu en Bulgarie, beaucoup de choses étaient, on profitait de beaucoup de choses, mais aussi d'autres étaient un peu restreintes, et donc j'avais vraiment envie de me plonger dans la langue française, apprendre, comprendre, lire, etc. Donc je suivis une formation universitaire, j'ai un DESS de développement culturel et direction de projet, et j'ai une thèse, donc je suis docteur en art du spectacle, tout fraîchement depuis décembre, voilà.
Par rapport à ça, donc, deux questions, Stanka. Y a-t-il encore différence, un dépaysement quand vous êtes arrivé en France par rapport à la différence entre la culture slave et culture, disons, plus latine de chez nous, quoi, plus, et puis Occident, Est, à l'époque, il y avait les blocs à l'époque encore. Donc, ça, oui. Bon, ça change depuis. Et deuxièmement, je crois que vous prouvez deux choses, c'est que la marionnette n'est pas faite que pour les enfants.
Oui.
Oui. Et deuxièmement, que pensez-vous, par exemple, de la typique de Guignol, qui est vraiment un personnage typiquement français, qui apprenne l'imaginaire français de la marionnette, quoi. Qu'en pensez-vous?
Oui, donc il y a plusieurs questions. Je vais essayer d'être assez synthétique. Ce qui concerne, oui, en effet, vous voyez, quand j'ai su que l'école a été créée, c'était en 87. Donc, tout n'était pas possible. C'était inimaginable de pouvoir franchir la frontière et pouvoir venir. Donc moi j'ai été invitée, l'école de l'Académie théâtrale de Sofia a été invitée en 89, avant la chute du mur de Berlin. Et pour vous dire, pour la petite curiosité, pour pouvoir venir en France à l'époque, il fallait laisser son passeport donc sa carte d'identité, son passeport bulgare, et on avait un passeport provisoire. Donc voilà, comme ça le contrôle était effectué, donc on voyageait avec un passeport provisoire, et puis quand on rentre, il fallait aller à la police pour récupérer son passeport. Voilà, donc tout a été fait, bon, c'est pas facile pour pouvoir franchir, et donc en fait tout s'est fait tellement brutalement, enfin c'est venu en 89, moi j'ai su qu'à l'époque, Todor Živkov, qui était notre chef de l'État, ben on l'a appris presque par la télé, quoi, par les informations. Donc ça a été assez, je dirais, une révolution un peu douce. Après, tout s'est ouvert, l'autre partie ou l'opposition s'est créée. Donc d'un coup, quand en 90, on a eu à la CAFETE, l'école de Charleville avait affiché le concours d'entrée, bah, d'un coup, tout me paraissait possible. Donc en effet, bah, ça a été un choc déjà arrivé en 90. Quand on arrive de Bulgarie où dans les magasins il y avait 3 pots de cornichons et des paquets de sel, et donc on faisait le tour et on sortait tous avec un paquet de sel puisqu'il n'y avait rien acheté. Tout était rationné également. Donc quand on arrive en France et quand on voit qu'il y a, je sais pas, 10 moutardes possibles, donc voilà, on est là, chez nous il y en a, voilà, 8 moutardes, c'est tout. Donc voilà, c'est des petites anecdotes, mais si vous voulez, ça... et puis bon, l'ouverture aussi de comprendre qu'il y avait quand même des mouvements philosophiques qui étaient quand même interdits, qu'on pouvait pas lire tout. Moi, j'ai découvert plein d'auteurs qui étaient interdits. Donc voilà, tout cela, ça a été vraiment une découverte avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme. Ce qui concerne, donc oui, voilà, c'est vrai que la marionnette, souvent, elle peut être... J'irais assujetti plutôt à l'enfance. Bien sûr, c'est un excellent moyen pour appréhender l'enfant dans sa globalité. C'est super. Je pense que vous êtes bien placé aussi pour ceux qui travaillent avec des enfants, pour savoir que c'est un moyen aussi de pouvoir entrer en conversation plus facilement. Mais elle parle aussi beaucoup aux adultes, hein, ou peut-être aux enfants qu'ils ont été, certainement, à un monde peut-être un peu perdu ou un découverte, voilà, tout cela. Et puis c'est vrai que dans la compagnie, Compagnie Zapoy, il y a le travail à l'enfance, donc travail autour des tout-petits, mais il y a aussi le travail de Denis qui est particulièrement des spectacles pour le tout public, hein, et plutôt un public, je dirais, à partir de collège, lycée, étudiants, etc. Et notamment avec le spectacle qui d'ailleurs a été en résidence ici l'année dernière, Tranché, donc qui, par exemple, traite, pour vous répondre, donc de la mémoire autour de la Première Guerre mondiale. Voilà, avec sur un très beau texte matériau plutôt, de Philippe Forgeau, auteur qui nous vient de Bretagne. Et voilà, c'est un travail autour, donc la marionnette là, c'est vrai qu'on s'imagine tout de suite Guignol, marionnette à gaine, ou bien marionnette à fil, ou bien voilà, on reste dans ces stigmates comme ça. Mais là, Denis a utilisé un matériau qui est la glaise, la terre, et donc la plupart des personnages sont sculptés dans ce matériau. Donc c'est des personnages éphémères qui naissent, qui disparaissent aussi devant le regard des spectateurs. Et en ce qui concerne Guignol, mais ma foi, moi j'adore. Ce personnage-là, purement français, existe aussi dans les autres cultures. Vous allez le retrouver avec Punch en Angleterre, vous allez le retrouver Kasperle, par exemple, en République tchèque. En Allemagne, ce sera Hans Wurst, saucisse, enfin voilà, bonhomme saucisse. Ou bien Petrushka, qui est plus proche de nous, qui est russe, le personnage de russe. Il n'existe pas en Bulgarie, hein, donc, mais bon, voilà. Donc oui, d'ailleurs, il y a tout un mouvement, un renouveau autour de théâtre de Guignol, ce qu'on appelle d'ailleurs des gainistes, ceux qui travaillent la marionnette à gaine. Et là, c'est vraiment purement d'une virtuosité, une dextérité avec cette forme-là. Et quand on a un bon texte, hein, par exemple, un bon du bureau à gaine, je recommande Punch is not dead, donc de Cyril Bourgois, par exemple, un ancien, et c'est fantastique. Et là, vous avez tout un mouvement de bons gainistes, hein, donc des marionnettistes spécialistes un guignol. Voilà.
Merci d'avoir répondu. Vraiment, c'est complet la réponse. Nickel. Oh, vraiment, c'est bien. Il y a quelqu'un qui voudrait me poser une question.
Oui, je voulais vous poser une question. Vous avez baptisé votre compagnie du nom de Zapoy. Mais que signifie Zapoy? Est-ce que ça a des références particulières, Zapoy? Qu'est-ce que ça signifie?
Oui, tout à fait. C'est pas un mot inventé, hein. Donc, c'est un mot qui existe réellement, et en langue bulgare et en langue russe. Je privilégie plutôt le côté russe parce qu'il y a un peu plus de poésie que le mot bulgare qui reste un peu barbare. Donc, il n'y a pas réellement un mot dans le dictionnaire qui peut traduire ce mot particulièrement slave, qui représente exactement ce délire autour de l'âme slave, ce que ça peut être, cette espèce d'euphorie à la fois, d'hystérie même à la fois, voilà, et puis de générosité. Donc ça veut dire ivresse. Si je dois le traduire, c'est un peu l'ivresse, mais un peu, vous voyez, Rimbaud, Verlaine, ce moment où ces grands poètes français buvaient de l'absinthe, refaisaient le monde, à la fois essayaient de rechercher une nouvelle type d'écriture. Et donc Zapoy, c'est un peu ça. J'aime dans ce mot quand on a donc d'une part parce que ça sonne bien et d'autre part parce que c'est un mot qui englobe à la fois boire ensemble, donc se saouler la gueule en quelque sorte ensemble pendant plusieurs jours. D'ailleurs en Russie on peut dire il y a un zapoy. D'ailleurs il y a eu dans le monde à un moment donné il y a quelques années le fléau zapoy, c'est le fléau en Russie parce que c'est vrai que il y a un zapoy, 3 jours, est-ce qu'on le paye? Voilà, c'est un vrai problème, hein, voilà. Mais nous, à la compagnie, on privilégie plutôt le côté poétique de ce mot. Donc, être ensemble, ce moment créatif, l'ivresse créative, voilà, de ce moment de l'ivresse où tout nous paraît possible, où on est ensemble et on peut, voilà, être dans cette extase et cette volupté de l'ivresse, voilà.
Merci. J'aurais une petite réflexion. Quelqu'un a quelque chose à dire? J'aurais une petite réflexion. Quand on manipule comme une marionnette, parce que des moments on n'est pas libre, on se sent manipulé par comme une marionnette, on se dit peut-être la vie ne tient qu'à un fil, comme une marionnette.
Ouais, c'est vrai que c'est ça. J'aime beaucoup ça. Oui, c'est vrai que c'est ça. C'est
parce qu'il y a l'expression la vie ne tient qu'à un fil. Ah oui, c'est donc.
Voilà. Mais il y avait j'ai oublié qui était le dessinateur. Et donc ça, il y avait un petit bonhomme qui marche sur un fil. Oui. Et ça part de ce que vous dites exactement. La vie ne tient qu'un fil. Et puis oui, mais ça dépend qui tient le fil. Voilà. Donc après, c'est aussi ça ne tient qu'un fil, mais il faut aussi prendre.
Du recul par rapport à ça.
Du recul et prendre parfois aussi les cordes, les fils aussi, les traînes, voilà, et pour agir aussi sur sa propre vie.
Voilà. Écoutez, est-ce que quelqu'un a encore une question à poser? Rappeler les dates. Oui,
Les dates, donc on est, Patricia, je pense qu'elle va nous être, la plaquette va nous être d'utilité parce que je ne les ai pas vraiment en tête. On vient pour 4 représentations. Au mois d'avril, si je me trompe. C'est ça, oui. Donc,
11 avril,
voilà, un tout public.
Il y a beaucoup de représentations.
Voilà, il y a beaucoup de scolaires, donc ça a très bien fonctionné la saison dernière. Et on remercie le Phénix de nous inviter encore une fois avec ce spectacle.
Merci beaucoup.
Je crois qu'on peut passer à la suite. En tout cas, vous restez avec nous pour jusqu'à la fin de l'émission, c'est un cas parce que c'est pas tous les jours que la poésie bulgare est là, quoi. Donc voilà. Et donc, écoutez, après, on passe à une pause musicale de Jacques Dutronc. J'aime les filles. Qu'est-ce que Jean-Michel, tu l'as proposé, je crois.
C'est un disque qui a été enregistré par Jacques Dutronc en juin 67. J'ai fait le disque aussi, c'est un secret de maison de disque, je peux pas tout dire. Patrick Logelin, c'était mon directeur artistique. Et le directeur artistique de Jacques Dutronc, c'est Jacques Lanzmann. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire.
J'aime les filles, voilà.
Voilà.
J'aime les filles, 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 j'
lapin. J'aime les filles de l'homme. J'aime les filles sans papa. J'aime les filles de Meusel. J'aime les filles de Saint-Tropez. J'aime les filles qui font la grève. J'aime les filles qui vont camper. J'aime les filles du camarade. J'aime les filles à télécrète. J'aime les filles qui font marrer. J'aime les filles qui font vieilles vents. J'aime les filles du cinéma. J'aime les filles de l'assistance. J'aime les filles dans l'embarras. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi.
Maintenant, on va passer de la drague au paranormal. Donc avec Bruno.
On va parler des dogons et des soucoupes volantes. Voilà. Donc, les Dogons, un peuple du Mali, vivant à environ 500 km de Tombouctou, possédaient des connaissances astronomiques qui tiendraient, selon eux, d'hommes de l'espace, venus de Sirius, une étoile située à 8,7 années-lumière de la Terre. Dans la cosmogonie des Dogons, Sirius, l'étoile la plus brillante de la constellation du Grand Chien, en fait l'étoile la plus brillante du ciel et possède une compagne, une étoile très dense et très lourde et invisible à l'œil nu. Or, ceci est parfaitement exact. Sirius est effectivement flanqué d'une compagne invisible appelée Sirius B. Son existence est connue depuis 1844 et il est établi qu'il s'agit d'une naine blanche. Donc c'est un type d'étoile, la naine blanche. Les Dogons ont affirmé que leurs connaissances leur avaient été transmises par des êtres amphibiens, les Nomo, NO2MO, venu d'une étoile qui, comme Sirius B, orbite autour de Sirius et qui a un quart de sa masse. Les Dogons vénéraient les Nomo comme des dieux. Ils dessinaient des schémas représentant des vaisseaux à bord desquels ces créatures avaient atterri. Et ils donnaient des indications très précises sur l'endroit où elles avaient débarqué. Nos télescopes sont incapables de détecter la planète d'où venaient les Nomo. Sirius, étant à 35,5 fois plus brillante que notre Soleil et beaucoup plus chaude, Robert Temple, un scientifique, a émis l'hypothèse que la planète des Nomo doit être très chaude et humide, et c'est la raison pour laquelle la vie s'y serait développée dans les océans où la température est plus douce. Ces créatures poissons passeraient la majeure partie de leur existence sur la Terre ferme, mais toujours à proximité de l'eau. Leur peau aurait besoin d'être recouverte en permanence d'une couche d'eau, sinon elle se dessécherait et leur causerait des brûlures très douloureuses. Temple conçoit ces créatures comme des sortes de dauphins. Voilà.
Écoute, c'est formidable, quoi, l'homme poisson. Enfin, juste dans l'espace, hein. Mais le problème, il y a des gens qui se retrouvent dans l'espace, c'est pourquoi ? Ils boivent trop de café. Le café, ça se boit des soucoupes. Ah, c'est... Oui.
Monsieur Bruno, vous êtes toujours aussi rigolo. Mais oui, d'accord, peut-être avec le café. Mais moi, je me dis que Bruno, il a soulevé un petit coin du tapis parce que ben, je pense aux Grecs avec leurs sirènes. Ça doit avoir un petit rapport, ce genre de choses.
Il y a aussi les Égyptiens parce que on ne sait pas si les Nomo ont eu cette connaissance d'après les Égyptiens qui leur auraient transmis aussi l'Orion et tout ça. Enfin, parce que Sirius.
Ben moi, je pars toujours du principe que quel que soit l'auteur de science-fiction, et Jules Verne en était un.
Oui.
Donc justement, ça peut se vérifier. Quel que soit l'auteur de science-fiction, il y a toujours un fond de vrai et il y a toujours quelque chose qui existe dedans. enfin dans leurs écrits. Or, dans la science-fiction, dans les écrits, on en a, mais on en a aussi dans les films. Alors moi, quand tu m'as parlé de Dogon, des êtres amphibiens, et puis, bon, enfin, quand tu as parlé surtout de d'extraterrestres, ça m'a fait revenir à Stargate, en me disant bon, les Égyptiens avec leur, je sais plus comment que ça s'appelait, les Goa'uld, je crois à ce moment-là.
Les quoi ? J'ai pas entendu.
Des Goa'uld.
Je connais pas.
C'est pas grave, tu manques rien de ne pas les connaître. non, c'est vraiment des méchants. Et donc, bon, ben, je serais tenté de dire que c'est agréable de penser, de pouvoir penser que, ben, si on est ce qu'on est, c'est peut-être parce que quelque part, d'autres êtres ont pu nous influer dans notre grandeur, enfin, de devenir plus, un peu plus intelligent. Je vois que, je sais pas si tu arrives à comprendre.
Ouais, ouais.
Alors, est-ce que tu vas rechercher encore plus loin après ?
Ouais.
Ben, on sera deux alors.
Moi, j'aurais une réflexion philosophique par rapport aux amphibies, aux poissons. Il faut pas oublier que, avant la croix chrétienne, le symbole chrétien, le premier symbole chrétien, ça a été le poisson. Mm-hmm. Je ne dis pas de bêtises.
Voilà. Tu ne dis aucune bêtise et ça n'est certainement pas anodin.
Oui. Et deuxièmement, s'il y a d'autres êtres spatiaux, moi, dans mon délire, j'ai lutté, par exemple, du concept extraterrestre. Bah oui, parce qu'il y a les hommes poissons, enfin tout ça, ça m'a dit tout de suite. Et moi, quand même, je suis terrien, je défends ma planète, quoi. Et oui. Enfin, c'est-à-dire que je, parce qu'ils auraient eu, enfin.
Bruno, combien il y a d'eau dans l'humain?
Combien il y a d'eau? 95%, je crois.
Voilà.
Donc, oui. Donc, ça ne tombe pas à l'eau, ce que tu dis. Enfin, c'est évident, quoi. Bon, ben, on est bien entre extraterrestres, parce que j'ai parlé de petits anges, j'ai parlé de petits anges cosmiques tout à l'heure, voilà, quoi. Donc. Et puis, j'ai fait un poème qui s'appelait Poète cosmique, donc, tout va bien, quoi. Voilà, quoi. Voilà. Bon, entrant. L'assemblée spatiale peut continuer. Enfin, voilà. Voilà. Donc maintenant, on passe à la suite. Bah écoutez, après les Dogons...
On va interviewer le théâtre.
Enfin, oui, l'atelier théâtre, l'activité théâtre du CTAP de Valenciennes.
CTAP, oui. On a Anne autour de la table.
Anne, c'est bien ça, Anne.
Bonjour, voilà, Anne, patiente de Valenciennes. Je vais parler de la représentation théâtrale qu'on a fait ce matin, entre 11h et 11h30, hein, vu que c'était une petite pièce de théâtre. Donc voilà, c'est une pièce de Mathieu Wisniewski qui parle d'un sujet toujours d'actualité, donc de réfugiés qui veulent passer la frontière. Je jouais le rôle d'un garde-frontière avec Francis et Christophe et René-Paul qui sont tous les trois également patients de Valenciennes. Francis jouait le garde, le deuxième garde, et René-Paul et Christophe jouaient les réfugiés, donc une femme réfugiée avec son enfant. Et Christophe, un réfugié politique, comme beaucoup d'autres, avec ses blessures. Et René-Paul, plus particulièrement, était impliqué puisqu'elle avait un enfant en bas âge. Et donc, nous, les gardes frontières, étions là pour représenter donc l'administration politique, bien sûr. Donc, avec la paperasserie, la rigueur que ça impose. Et René-Paul, avec son enfant, faisait donnait une représentation beaucoup plus poétique d'un passage à la frontière. Elle voulait, selon les saisons, qu'on la représente comme flocon de neige ou comme averse ou comme l'enfant qu'elle portait dans ses bras, mais pas comme étant un papier, un simple papier ou un simple passeport avec ce qui peut être écrit ou indiqué dessus. Et donc, on a fait cette petite pièce de théâtre-là après moult répétitions et changements, c'est-à-dire beaucoup de moments aussi de franche rigolade, puisqu'il y avait pas mal d'improvisations auxquelles on a dû faire face, et nos caractères aussi, nos caractères tous différents. Voilà, on était assez contents de notre travail. Hein. Je me retourne vers Francis et René-Paul. On a cru qu'on n'y arriverait pas, et puis en fait, tout compte fait, ça s'est très bien passé, parce que c'est vrai que c'est un plaisir de travailler déjà avec Philippe, notre chef d'orchestre, entre guillemets, notre prof de théâtre, qui n'est pas là, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, et ça a été un plaisir aussi de jouer ces rôles, parce que on s'est senti impliqué vu que la vie de politique de tous les jours parle chaque jour de réfugiés, de personnes sans papier.
Oui, Marie-Agnès.
Ben, j'aurais bien aimé le titre de la pièce, moi déjà.
En attendant que la canicule passe.
D'accord, ok. Oh, c'est tout un programme, ça.
Pardon.
Oui, je suis content que tu... on peut tutoyer, ça ne dérange pas. Ton prénom, c'est...
Pas du tout, Anne.
Anne, oui. C'est qu'en plus, on a quelqu'un qui vient d'un ex-pays de l'Est qui a connu la bureaucratie des papiers. Parce
tout
que
à
pour,
fait.
Pour aller, parce que je me rappelle, pour aller en Pologne, en Tchécoslovaquie, en 77, il y avait garde frontière avec sa mitraillette, quoi. C'est pas très sympa, quoi. Et j'ai l'impression que l'Occident prend... Ça devient une forteresse. Et il y a un grand dissident soviétique, pour qui j'ai énormément de respect, qui s'appelait Vladimir Bukovski. Qui a été en hôpital psychiatrique sous Brejnev et qui vit maintenant en Angleterre. Il a comparé l'Europe à l'URSS, une troïka. Le troïka, c'est un mot russe. Ah oui, c'est une troïka qui dirige l'Europe. Je m'arrêterai là.
Ah bah dis donc, il y a des drôles de chevaux alors dans ta troïka. Moi j'aurais aimé savoir par contre vos impressions. Là maintenant, la représentation elle a été faite. Ça fait quoi d'être sur la scène?
C'est vrai que avant quelques heures avant, on est arrivé pour faire les dernières répétitions, pour disons mettre au point les derniers changements qu'on avait faits. Et avant la représentation, on était stressé, on était sur les nerfs, on était prêt à se sauter dessus bec et ongles. Et puis après la représentation, on était soulagé, fier de notre travail, et puis voilà, tout simplement soulagé.
Que soulagé, il y a pas de... vous n'avez pas ressenti une certaine fierté, je sais pas. Vous avez envie de recommencer, de continuer?
Alors, pour ma part, oui, j'ai très envie de continuer. Je sais que René-Paul aussi, par la suite, a demandé à Philippe s'il y allait y avoir poursuite, y allait avoir, poursuite de cet atelier théâtre à la rentrée. Francis, je ne sais pas, parce qu'il n'est pas très, il exprime pas tellement son ressenti. Quant à Christophe, je pense qu'il était content de lui aussi. D'ailleurs, il aurait voulu participer au repas et même à la représentation cet après-midi, mais le jour où on lui a proposé, il n'était pas dans de bonnes dispositions, donc il a refusé. Mais je pense qu'en règle générale, on a tous les quatre été contents de nous.
Prêt à affronter un plus grand public, si on vous le demandait?
Oui.
Et quel genre de pièce vous auriez envie de faire autrement maintenant? Enfin, si on vous propose de refaire autre chose, vers quoi vous avez envie de vous orienter là?
Alors actuellement, nous on n'a pas d'idée précise. Enfin, je parle au nom de mes compagnons. On n'a pas d'idée précise sur ce qu'on a envie de faire exactement. Par contre, le professeur de théâtre, aurait souhaité au tout début qu'on fasse une sorte de représentation avec l'histoire de la ville de Valenciennes.
Oh, de l'historique, c'est du gros volume, ça.
Tout à fait, ouais. Mais il aurait souhaité qu'on ait un plus gros effectif. C'est vrai que là, on n'était que quatre. Au début, on était huit, et puis petit à petit, ça s'est égrené selon les différentes occupations des autres patients. Mais je pense que si on est à plus de patients, on peut faire quelque chose de bien sur l'histoire de la ville de Valenciennes.
Oui, j'ai une réflexion par rapport à l'activité de théâtre. Le théâtre, pourquoi c'est très bien ciblé pour soigner le corps et l'esprit quand on a été reçu un choc psychologique, quand on est malade, entre guillemets, quoi. C'est que le théâtre vous force à jouer un personnage. Et pour bien jouer ce personnage, on prend du recul par rapport à son propre psychisme, en se regardant et en se mettant dans la peau d'un autre. Et je crois qu'en prenant la distance, il y a le self-control qui arrive et on a la maîtrise pour soigner son mal. Et j'ai remarqué, quand je faisais du théâtre aussi, à l'époque j'en faisais aussi pour me recomposer, me reconstruire, quoi, me reconstituer, c'est un travail psychologique, se mettre dans la peau d'un personnage, apprendre le texte, tout ça. Mais c'est aussi un travail physique. C'est-à-dire ouais. Que, enfin, il y a les deux, c'est physique le théâtre aussi, quoi. C'est-à-dire que, même dans la peau, même dans le personnage physiquement, quand on doit jouer un vieux monsieur, on doit devenir vieux physiquement, je dirais, limite. Enfin, vous voyez, c'est, je sais pas ce que t'en penses.
Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. On n'est pas du tout dans la vision de soi-même et de ses propres carences ou de ses propres, défaillance. On est là pour jouer un personnage. On n'a pas du tout l'impression d'être prise à partie quand dans le dialogue il peut y avoir des choses dites qui peuvent être blessantes ou quoi que ce soit. On est vraiment pas du tout soi-même. Si on met de ses tripes et de sa personnalité, mais en même temps avec les changements de costume qu'il peut y avoir dans une pièce de théâtre, parce que là, bon, ce matin, on n'a pas changé de costume en une demi-heure de temps, c'est pas possible. Mais quand on se change, qu'on met des accessoires pour ressembler à quelqu'un d'autre, tout de suite, on est dans cette personne et on peut exprimer plus de choses, des choses qu'on ne dit pas forcément dans la vie de tous les jours. Et on peut exprimer aussi un trait de sa personnalité qu'on cache parfois peut-être, ou qu'on montre trop, qu'on montre par exubérance, et que là, il faut plus la canaliser et lui donner un vrai sens. Oui, tout à fait, on est quelqu'un d'autre.
Et puis, je vais terminer, mais j'ai encore une réflexion, c'est que les Américains ont inventé, il n'y a pas longtemps, le terme empathie. L'empathie, c'est ça, l'espèce de truc génial qui fait qu'on se met à la place de l'autre, quoi. Et je crois que le théâtre, c'est ça aussi, quoi. Et par rapport à ça, si on va plus facilement par rapport à l'autre, on apprend aussi à mieux se connaître et donc à guérir. Qu'est-ce que tu en penses?
Tout à fait. Tout à fait. On apprend à maîtriser déjà à se maîtriser soi-même, à maîtriser ses écarts, ses excès, et en regardant l'autre jouer et en l'écoutant dire son texte, on voit comment cette personne-là peut être aussi dans la vie de tous les jours, peut prendre sur sa maladie, peut évoluer avec ou aller à contre-sens de cette maladie, puisqu'on est tous patients, donc on a tous une pathologie. Et donc c'est vrai que se mettre à la place de l'autre, c'est très important dans un dialogue, parce qu'il faut savoir s'écouter et il faut savoir écouter l'autre. Voilà, merci.
Est-ce qu'il y a des questions, Bruno, des questions?
Non. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bah de rien, merci pour l'accueil, merci de votre gentillesse, Anne. Maintenant, on va passer au poème, le second poème d'Aline, lu par Sophie.
Ouais, je vais essayer de suivre les conseils d'Anne et d'y mettre toute mon âme. Lectrice. Les poules d'eau, c'est peureux. Es-tu heureux? Je te fus très proche et très distante à la fois. Promets-moi, par les chiens, plus facile qu'humain. Lectrice, bataille des idées, lectrice, notre révolution. Les enfants ne savent pas attendre dans une cour de récréation. Le bonheur te ronge-t-il, mon amour? Quelque humour pour que tu hurles, quelque chose que tu brûles. La nuit tombe, mes yeux s'étonnent, je sens que demain va disparaître. Et c'est fini.
Merci. Donc, on remercie donc Aline Cabadet. J'espère que... On pourrait la voir la prochaine fois si elle passe à voir.
On essayera.
Bah oui, parce que Aline, c'est Aline, quoi. Moi, un petit torche cosmique, ça me dit, hein, pas de problème.
Je transmettrai, elle sera très contente.
D'accord. Bon, et ensuite, on peut passer à la pause musicale live de Jean-Jacques. Jean-Jacques, voilà.
Ravillon.
Oui, alors avant la pause musicale, juste dire à Jean-Michel, que je connais bien, qui est mon voisin, passer J'aime les fils juste après une interview sur les marionnettes, c'est trop fort. Thank you.
Merci Jean-Jacques. Je crois que on arrive à la fin de l'émission un peu à la fois là, j'ai l'impression. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à déclarer, une espèce de scoop, quelque chose qui fasse que l'émission soit complètement personne. Blandine, quelque chose, un scoop, Blandine?
Non, c'est pas un scoop, c'est juste, je voulais remercier au nom des entonnoirs toujours cet accueil magnifique de la part de l'équipe et de tout le monde, et un grand merci, c'était un vrai bonheur de venir faire l'émission ici.
Oui, vas-y.
D'ailleurs, moi, je pense qu'on va peut-être s'installer.
Oui. Par rapport à ça, donc à chaque fois, on est reçu dans un lieu différent. Où ce sera la prochaine fois? Et j'ai envie d'être de lancer un défi. Pourquoi vous ne recevrez pas, par exemple, au commissariat de Valenciennes?
Ah bon, ici, les poulets sont gentils?
C'était ma connerie, fallait que je la sorte.
Évidemment, Bruno, je vous reconnais bien là. Et sans ça, vous ne serez pas Bruno.
Merci.
Et moi, je voulais retenir, donc remercier tous les gens du Phénix qui nous ont accueillis, dont le directeur, Madame Gorka, avec qui j'ai eu des contacts pour organiser cette journée.
Je crois qu'il est l'heure de nous quitter. Sophie, quelque chose... Merci pour la collaboration.
C'est moi qui te remercie, Bruno, qui nous a fait rire avec tes blagues si subtiles.
Ouais, ça dépend. On essaie toujours de faire mieux. Écoutez, chers auditeurs, chers auditeurs, à bientôt à l'émission numéro 265, qui ne devrait tarder.
Merci.
Au revoir.
Tout compte fait, on s'en va pas avec un peu de musique? Un petit tube à Félix Tiefen.
C'était pas marqué sur mon programme, mais c'est pas marqué, je le fais pas.
Oh si.
Bon, Tiefen, voilà. D'accord, parce que c'est un grand pote, voilà.
Se disant qu'on se taperait bien, la fille du coupeur de joie.
La fille
du coupeur de joie. Elle descendait de la montagne, plaquait les voies vers les murailles, et qu'elle nous fait coucou les gens, la fille du coupeur de joie.
La fille du coupeur de joie.
Elle nous fait le coup du zéplin, la fille du coupeur de joie.
La fille du coupeur de joie.
Nous, on était six chômeurs à se payer une tranche de bonheur, une tranche de tagada, toi. Sacré bon Dieu que c'était bien la fille du coupeur de joie. Au milieu des petits lapins, la fille du coupeur de joint.